Cheval Vapeur. Né à Ergué-Gabéric en 1834, dans une famille de journaliers miséreux, la vie de Jean-Marie Desguignettes nous est connue par le long récit qu'il en a fait à la fin de son existence. Redécouverte il y a 25 ans, la voix de Desguignettes, autodidacte anticlérical et anarchiste, résonne avec une vigueur et une acuité qui n'a rien perdu de son mordant. Écoutez Cheval Vapeur sur Radio Balise, Christophe au micro pour notre hebdomadaire d'histoire consacré à la naissance des temps modernes en Bretagne. Un programme conçu par l'Écomusée des Forges d'Inzinzac le Christ et Radio Balise. Par son existence exceptionnelle et sa personnalité hors du commun, Jean-Marie Desguignettes bouscule les représentations établies. Le journal qu'il rédige à la fin de sa vie permet une relecture décapante des mouvements à l'œuvre dans la Bretagne rurale du XIXe siècle, progressiste et conservatrice. Homme aux mille métiers et mille misères, mendiant, garçon vaché, domestique, soldat, paysan, agent d'assurance, débitant de tabac, il finit par retomber dans la misère à la fin de sa vie. Il est retrouvé mort à la porte de l'hospice de Quimper en 1905. La redécouverte improbable des manuscrits de Jean-Marie Desguignettes et leur première publication partielle en 1998 marquent le point de départ d'une aventure éditoriale et littéraire étonnante qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Au cœur de cette entreprise, Bernays Rousse, journaliste et auteur, homme de presse, de radio et de télévision, président du Conseil culturel de Bretagne et gabéricois comme Desguignettes, il va nous guider dans les mémoires d'un paysan bas-breton.
J'ai été président de l'association Arcae d'Ergué-Gabéric, donc c'était à ce titre-là qu'on a travaillé sur les archives, on les a trouvées, et on a travaillé sur les archives de Desguignettes, quoi, si tu veux. Donc c'est présidence d'une association locale du patrimoine, quoi.
Et c'est au sein de l'association Arcae que les manuscrits ont été retrouvés.
Voilà, parce qu'en fait, on avait été mis sur la piste. Le but d'Arcae, en fait, qui travaillait sur une seule commune, c'est Ergué-Gabéric, près de Quimper. Le but d'Arcae, c'était de regrouper tout ce qui concerne l'histoire d'Ergué. Et donc, on a commencé à regarder d'abord dans les sociétés savantes, enfin les anciens écrits faits par les prêtres, etc. Et donc on a travaillé là-dessus, et puis on est tombé par hasard dans le bulletin de la société archéologique du Finistère sur des contes et légendes qui se passait un peu à Ergué-Gabéric, quoi. Et donc, du coup, on a dit, ce type-là, visiblement, il grenouille dans le coin, il faut qu'on sache qui c'est. Et donc, on a fait notre enquête, et puis, effectivement, on a dit, il y a un Desguignettes à Ergué-Gabéric, et c'est le diseur de grâce, tu sais, c'est la personne, quand il y avait la veillée des morts, c'est lui qui disait les prières, etc. Et voilà, il s'appelle Desguignettes, et il s'appelle Franche Desguignettes, et donc... on a dit c'est très intéressant, et puis on n'a jamais pu le voir parce qu'il est mort. Voilà. Donc la famille Ils nous disent, ici, il y a quelqu'un dans la famille qui a écrit il y a longtemps, et les cahiers, on ne sait pas avec qui ils sont. Et donc, on a fait une assez longue enquête pour savoir qui avait les cahiers, donc, d'aller un peu partout, et puis on n'avait pas trouvé. Mais on avait trouvé d'autres petits éléments qui font qu'on avait pu mettre en valeur, en fait, ces contes et légendes-là. Donc, du coup, on savait que la personne était d'Hergé Gabéric, d'abord, et donc, dans une journée du patrimoine, on dit, un copain qui était correspondant d'Ouest France met dans le journal cherche manuscrit désespérément. Et coup de peau, il reçoit un coup de fil d'une personne qui habitait Quimper et qui dit j'ai les manuscrits. Alors c'est un coup de peau parce que à Quimper, les trois quarts des gens lisent le télégramme et le quart lit l'Ouest France. Donc c'est un coup de peau qui lise l'Ouest France. Et on est allé les voir et tout ça. Et puis ils nous ont dit, ils habitaient un HLM à Quimper, ils ont dit, il était temps que vous veniez parce que ma femme n'arrête pas de me tarabuster pour que je mette ça à la poubelle parce que c'est écrit en breton, enfin personne ne comprend rien là-dedans et puis on sait pas trop ce que c'est. Bon, voilà. Et donc, du coup, on a mis les grappins dessus, on a fait une copie évidemment, et on a commencé à travailler sur ces documents-là. Alors, c'était des documents, donc 40 cahiers de 100 pages. Hein. Et donc, c'était des documents relativement bien écrits, relativement lisibles, mais effectivement, il y avait beaucoup de citations en breton, des citations en latin, des citations en italien, etc. Enfin, on regardait ça un peu de façon un peu curieuse. Et on a commencé à donc toute une chaîne de personnes de l'association, on a commencé à taper le manuscrit. Hein, puisque on voyait bien que c'était intéressant. Et donc, on a commencé à taper, et puis petit à petit, on est arrivé à taper le tout. Et quand on a regardé un peu l'affaire, on s'est dit, alors qu'est-ce qu'on en fait, quoi, parce que c'était énorme. Et moi, j'ai pris le manuscrit, et puis j'ai fait le choix de garder simplement les parties dynamiques de Déguigné, c'est-à-dire là où il fait quelque chose, et de laisser de côté, il a beaucoup de commentaires à l'époque où il écrit son livre, en fait, donc, où il écrit sa vie, c'est-à-dire vers 1900, il a beaucoup de commentaires sur les événements politiques qui se passent en France, dans le monde, etc. Parce qu'il est curieux de tout, il va à la bibliothèque tous les jours, il lit les journaux tous les jours, et donc il est curieux de ça. Et puis il a déjà bourlingué à travers le monde, donc ça tout l'intéresse, en gros. Et donc, du coup, j'ai sorti ce qu'on connaît, hein, les mémoires d'un paysan bas breton, donc qui a fait un tabac à l'époque et qui continue à le faire, puisque on vient de sortir la 23e édition là, et il s'en vend à peu près 400 par an encore, 25 ans après la première édition. Vous voyez, donc ça reste quelque chose qui a marqué les gens. Et donc je me suis posé la question, par exemple, par rapport à l'autre best-seller breton qui est le cheval d'orgueil de Pierre-Jacques Elias. Pierre-Jacques Elias, lui, avait fait le choix de mettre en avant un peu toute la richesse de la civilisation rurale ancienne et ce qui se passait le dimanche, quoi, c'est-à-dire les contes, les légendes, les choses comme ça, en fait, tout ce que la société rurale donnait de bon, en fait, en termes de culture, en termes de vie. Et les gens m'ont dit, nous, nos ancêtres, ils étaient ouvriers agricoles, ils étaient journaliers, et on ne se retrouve pas du tout dans Pierre-Jacques Elias, qui raconte en fait la vie de paysans relativement aisés. Et par contre, chez Déguigné, on se retrouve complètement, parce que Déguigné, il était mendiant au départ, et c'était donc une pauvre extraction, et nous, nos ancêtres, ont vécu comme ça, quoi. Et c'est ce qu'on a connu avec nos grands-parents et tout ça, c'était des gens qui tiraient le diable par les queues, quoi. Et donc ils se sont trouvés tout de suite dans l'écriture de Déguigné, parce que c'était leur condition, et c'était, quand on regarde la sociologie de la population rurale en Bretagne à cette époque, c'était les trois quarts de la population étaient sous un seuil de pauvreté assez important.
Quelque temps après tout cela, c'est-à-dire au printemps de 1844, une vieille bonne femme des environs vint trouver ma mère en lui disant qu'elle ferait mieux de m'envoyer faire tout le tour de la commune avec une besace que de me laisser mendier simplement mon dîner quotidien autour du Guélenec. Ma mère l'approuva. Cette bonne femme était une mendiante professionnelle. Elle se chargeait de m'apprendre l'état. Elle indiqua à ma mère comment il fallait confectionner ma besace. Ce fut ce que ma mère fit, et lorsque la besace fut terminée, on l'essaya. Elle m'allait comme un gant. 2 jours après, je partis avec mon professeur pour commencer la première leçon. La vieille me faisait entendre que j'allais commencer le plus digne et le plus noble état du monde, puisque Dieu l'avait pratiqué lui-même et qu'il fut pratiqué également par nos plus grands saints. Quel honneur et quelle gloire de pouvoir, à l'âge de 9 ans, marcher sur les traces de Dieu et des saints. Grâce à mon professeur et mon guide, qui étaient connus et bien reçus partout, je fus bien reçu aussi. J'étais si petit, si maigre, si triste, que les bonnes fermières avaient pitié de moi, non pas tant pour soulager ma misère, que pour s'acquitter d'un devoir envers leur Dieu. Ces aumônes avaient toujours un but intéressé et égoïste. Quand ces femmes me donnaient pour 2 liards de farine d'avoine ou de blé noir, l'aumône ordinaire d'alors, c'est qu'elles étaient convaincues de recevoir en retour le centuple, comme il est dit dans l'Évangile. Car elles savaient qu'une prière dite par moi, enfant chétif et humble, valait pour elles 100 prières radotées machinalement par de vieilles mendiantes. Jean-Marie Desguignettes, Mémoire d'un paysan bas-breton.
Et donc Desguignettes, ce qui est intéressant, c'est qu'il est très pauvre dans son enfance, il est mendiant, il apprend le métier de mendiant d'abord, et puis comme il est intelligent, on le prend comme vacher après dans une ferme, et... Il apprend le métier de l'agriculture, comme il dit. Et il a une chance, un petit peu, c'est que c'est une ferme de Kerfintin, qui est une ferme assez riche, et c'est une ferme un peu modèle, qui est en avance sur son temps, et les élèves de l'école d'agriculture du Liquès à Quimper viennent régulièrement dans cette ferme pour apprendre l'agriculture moderne. Et donc, Desguignettes, lui, garde les vaches dans le champ, et les élèves donc viennent là, viennent le voir, bon, évidemment... ça parlait français, hein, donc ça commence à l'interpeller aussi, puisque évidemment il ne parlait que breton au départ. Et ces élèves-là laissent derrière eux, oublient quelquefois des cahiers, des crayons, des choses comme ça. Et donc Desguignettes s'en saisit, et donc c'est comme ça qu'il a la première approche de l'écriture, en fait. Et donc il explique, c'est vraiment un passage très poignant, comment dans le champ, tout en gardant les vaches, dans la poussière, dans la boue, bah, il écrit les lettres, quoi. C'était son ardoise, en fait. Il écrit les lettres, il fait ça comme ça. Et puis petit à petit, bah, il réussit à apprendre bien l'alphabet. Et puis il y a aussi les journaux de son patron, hein, qui sont des journaux bilingues à l'époque. Et donc il déchiffre petit à petit le breton qu'il y a dedans. En plus, bon, évidemment, il va à la messe, donc il y a les chants bretons, etc. Et il y a le livre de messe qui est moitié latin, moitié breton. Donc bon, il étudie par cœur, quoi. Voilà. Et donc il commence comme ça.
Sa mère sait lire.
Alors, sa mère ne sait pas lire, mais ils ont tous ces livres-là traînaient dans l'église, quoi. Et donc, les gens récupéraient ça, même s'ils ne savaient pas ni lire ni écrire. En 1830, à Hergé-Gabéric, il y a 11% de la population qui sait lire et écrire. C'est à peu près la moyenne en Basse-Bretagne. C'est-à-dire, ce sont souvent les personnages les plus âgés qui ont réussi à avoir accès à l'instruction. Mais ce que nous raconte Desguignettes, ce que je ne savais pas, c'est que dans les campagnes, il y avait des bénévoles, hein, lui raconte une jeune fille qui faisait des cours gratuitement aux petits gamins près de chez lui, quoi, parce que évidemment l'école n'était pas obligatoire à l'époque, hein, parce que à Hergé il n'y a pas d'école, les gens doivent aller à Quimper pour aller à l'école, donc il n'y a que les plus riches qui peuvent se permettre ça, évidemment. Donc Desguignettes, comme ça, un premier petit accès à l'écriture. Et puis un jour, il se fait surprendre en train de garder ses vaches, en train d'essayer de déchiffrer le journal, quoi. Et donc, son patron, qui était un type intelligent, lui dit, mais je vois que tu es intéressé à l'écriture, etc. Qu'est-ce que tu veux faire? Et donc, l'autre lui dit que voilà, il aimerait bien apprendre à lire et à écrire. Et le patron a dit, écoute, c'est trop tard pour que tu ailles à l'école. De toute façon, la seule façon pour toi, pour progresser, c'est de t'engager à l'armée. Et c'est comme ça qu'il s'engage à l'armée, donc sous Napoléon III, donc on est en 1854, et il va passer donc... deux fois 7 ans, donc 14 ans à l'armée, et il va faire la guerre de Crimée, la guerre d'Italie, la guerre d'Algérie et la guerre du Mexique. Et miraculeusement, il passe ces guerres-là. Alors, ce sont des guerres qui, c'est pas tellement l'aspect guerre qui tue les gens, c'est l'aspect maladie. En Crimée, par exemple, je crois que les guerres en Crimée ont fait 10 000 morts et 70 000 morts par maladie. Voilà. Donc on est dans ce genre-là, quoi. Et donc Desguignés, ce qui est intéressant, c'est que quand il est à l'hôpital en Crimée, son voisin de lit, c'est un instituteur. Et donc il profite pour apprendre pour bien le français, quoi. Et c'est un instituteur du coin de Rennes qu'on n'a pas réussi à localiser. Bon, ça demanderait des recherches énormes, mais on a là les premiers essais en écriture, quoi. Et donc avec des choses tout à fait étonnantes, parce qu'il dit que après dans la caserne, il disait les gens ils parlaient des langues c'était pas du français standard, quoi. C'était on voit bien le gallo en Haute-Bretagne, par exemple, ou bien les gens qui venaient du Berry, ou bien les Occitans, ou des choses comme ça. Ils parlaient tous leur langue, ils parlaient pas le français standard, quoi. Et donc il disait c'est impossible, dans les hommes de troupe on trouve personne qui parle le français tel que je le lis dans les livres, quoi. Et il disait que les premiers qu'il a entendu et qu'il comprenait parlaient bien le français, c'était des officiers russes qui parlaient français entre eux, parce que le français avait à l'époque, évidemment, à la cour de Russie, avait était reconnu, quoi. Et donc il fait la Crimée, il fait l'Italie, il fait l'Algérie et il fait le Mexique. Chaque fois il s'intéresse aux populations locales, chaque fois parce qu'il était contre les guerres napoléoniennes, donc chaque fois il prend parti un peu pour les autochtones contre l'armée française, bon c'est comme ça. Et donc il s'enrichit comme ça d'autres langues, d'autres visions du monde. Et quand il revient au pays, il s'installe comme paysan, parce qu'il y avait pas d'autres possibilités, et il a déjà vécu, quoi. Il a parcouru le monde, il a vu plein de choses, et donc c'est là qu'il va vouloir, dans sa ferme qu'il trouve à faire, moderniser la ferme, quoi. C'est-à-dire il réussit assez rapidement avec des techniques agricoles, et puisqu'il sait lire aussi les livres, à l'époque on publie des livres d'agriculture qui sont bilingues, moitié breton, moitié français, parce que les gens connaissaient les mots techniques en breton, mais pour améliorer l'affaire. Donc il y a pas mal d'essais, notamment de nobles qui sont propriétaires des terres et qui ont envie qu'il y ait plus de rendement, hein, donc voilà.
Sachant que dans cette ferme, il n'y avait d'autre moyen de vivre que par des vaches laitières, j'avais tourné de suite mes soins de ce côté. Pour avoir de bonnes vaches laitières, il faut de bons pâturages en été et du bon foin en hiver, avec de bonnes racines fourragères. Aussi, tous mes soins portèrent vers les prairies et la préparation de la terre par un labour profond pour semer ou planter des racines fourragères au printemps. Mais ce qui me préoccupait surtout, c'était ce fameux marécage, la plus grande pièce de terre de la ferme, nommée Pré Rouge, parce qu'on ne voyait dessus que des mares d'eau rouge, des épines, du jonc, de la mousse et de la bruyère. Je fis creuser d'abord des rigoles profondes pour l'écoulement des eaux rouges et stagnantes. Quand les rigoles furent terminées et le pré rouge égoutté, je fis arracher les ronces, les joncs et bruyères, puis aplanir la surface. Les matières extraites des rigoles, qui n'étaient que des matières végétales, de la tourbe avec les ronces, les épines et les bruyères, lorsqu'elles furent bien séchées, furent mises en tas et brûlées. Et j'eus ainsi une bonne couche de cendres à répandre sur le pré. Tout ça fut fait durant l'hiver et pour ainsi dire sans perdre de temps. Cependant, à la fin d'avril, ce pré n'était plus rouge. On pouvait maintenant le nommer le pré vert. En effet, sous l'influence de la cendre, il y était poussé une couche serrée de trèfles de toutes sortes, des lotiers et des grosses fétuques. Ça avait été comme un miracle. Jean-Marie Desguignettes, mémoire d'un paysan bas-breton.
Desguignettes réussit dans sa ferme à Erguermel à en faire presque une ferme modèle, enfin au moins c'est une ferme qui tourne, quoi. Il y a pas de souci. Et puis là, quand il revient, comment il vend par exemple son beurre à Quimper, enfin etc. avec sa femme. Et puis le problème, c'est que dans sa tournée du monde, le Desguignettes, il a tourné le dos à la religion et il est devenu dire anti-catholique. Et donc, évidemment, dans un pays blanc à l'époque, ça passe très mal. Donc, il s'entend pas avec son propriétaire noble, qui est évidemment conservateur, et il se met en politique en plus. Donc, il commence à faire de la propagande pour les gens de gauche. Voilà. Et donc, il est viré de sa ferme, parce que à l'époque, c'était comme ça. Et donc, il se retrouve à la rue, en fait, après divers accidents, enfin des incendies, des trucs comme ça. Et donc, il se retrouve à la rue et il termine sa vie pratiquement à l'état de clochard, c'est-à-dire tel qu'il a commencé, quoi. Donc, c'est quelqu'un qui a une vie assez pathétique, en fait, hein, mais qui termine sa vie très aigri. Et en plus, il lui arrive une tuile, c'est que quand il écrit le récit de sa vie, il confie les manuscrits à Anatole Lebras, qui est professeur à Quimper à l'époque et qui est un folkloriste déjà reconnu. Et il lui demande, est-ce que ça vaut la peine de l'aider à publier ça pour toucher un peu d'argent, hein, par rapport à son écriture. Lebras lui dit oui, et puis Lebras est nommé ailleurs. Il a un drame dans sa famille, là, il perd 14 membres de sa famille dans un naufrage dans les Côtes d'Armor. Il devient prof à la fac de Rennes. Il s'écarte de Quimper et Desguignettes est un peu oublié. Et donc Desguignettes lui en veut terriblement et donc fera des lettres incendiaires sur Lebras. Et donc comme Lebras est dans l'Union régionaliste bretonne, donc incendiaire sur l'Union régionaliste bretonne, comme Lebras est pour le breton à l'école, donc incendiaire sur le breton. Il prend le contre-pied systématique de Lebras. Et donc faut comprendre ces diatribes comme ça. Mais en même temps, par exemple, il a des propos très durs contre le breton, en disant que c'est une vieille langue qui n'évolue plus, qui est presque morte, etc. Mais par contre, il écrit des poèmes en breton, qu'il envoie à François Vallée, à des gens comme ça, il fait des concours en breton. Enfin, c'est quelqu'un qui est plein de contradictions, forcément. Mais il a ce caractère. Enfin, il écrit la deuxième version, celle qu'on a, c'est une version très vive, très polémique, parce que il a la rage au corps. Hein. Il est persuadé que Lebras lui a piqué son manuscrit pour écrire ses propres livres. Et donc il a une rage terrible. Et donc il fait une deuxième mouture qui est très virulente, quoi. On a le début de la première mouture, c'est-à-dire parce que Lebras réussit quand même à commencer à publier dans la Revue de Paris en 1904, c'est-à-dire quelques mois avant la mort de Desguignettes, il est publié à Paris. Mais pas en feuilleton, quoi, en fait. Hein. Et donc, on voit bien, parce que Lebras a retouché le manuscrit pour enlever les choses qui fâchent, j'allais dire. Et donc, on voit bien qu'il y a une version édulcorée, mais qui était une version beaucoup plus sereine, beaucoup plus calme, la première version. Et la deuxième version est beaucoup plus nerveuse. Et voilà. Et donc, le choix que j'avais fait, c'était d'enlever en fait tous ces diatribes un peu inutiles pour privilégier son témoignage, parce que c'est son témoignage est quand même fabuleux d'un homme de la plus basse extraction qui réussit à raconter sa vie, quoi, et une vie qui est pas banale non plus, quoi.
Mais voici que les ouvriers du port de Brest et de Lorient commencent à s'agiter aussi comme les mineurs. Ils disent qu'il est temps d'agir. Ils commencent à comprendre ce que j'ai écrit déjà depuis longtemps, que les plaintes, les pétitions ne signifient rien, que les représentants se moquent de ces plaintes et de ces pétitions. Maintenant, ils comprennent, comme je l'ai déjà dit, qu'il faut agir par la violence. Mais le feront-ils ? J'en doute. Peut-être à la fin, la misère les forcera à agir, car cette misère devient affreuse. Car ces ouvriers des ports qui ont un travail assuré tous les jours affirment qu'il leur est impossible de vivre et d'élever leurs enfants avec leurs soldes. Et les autres ouvriers qui chôment la moitié du temps n'ont que 30 sous par jour quand ils travaillent, ont des nichées d'enfants à nourrir. S'ils ne se réveillent pas cet hiver qui s'annonce fort dur, ils crèveront de faim, assurément, pendant que les grandes fripouilles se vautrent dans la surabondance et les orgies, car c'est surtout en hiver, dans les hivers les plus rigoureux, lorsque les travailleurs grelottent de froid et crèvent de faim, que ces canailles sans cœur et sans entrailles se procurent les plus grandes jouissances. Ils ont pour se garantir du froid des vêtements épais et des fourrures, des chambres claires chauffées à 12 degrés. C'est alors qu'ils ont grand bal, théâtre, soirées chantantes et musicales, des dîners et des soupers impétueux à 50 et 60 francs par tête, tandis que les prolétaires qui fournissent toutes ces jouissances dînent et soupent à 10 centimes par tête, couchent sur des grabats de paille dans des trous humides et froids. Mais ces prolétaires méritent cependant ce qu'ils ont, par leur ignorance, leur bassesse et leur lâcheté. Les peuples ont, dit-on, les gouvernements qu'ils méritent. Ces stupides prolétaires ont aussi les maîtres qu'ils méritent. Jean-Marie Desguignettes, Mémoire d'un paysan bas-breton. Merci Bernice Rousse pour cette première partie de notre entretien. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette découverte des mémoires de Jean-Marie Desguignettes. Cheval Vapeur, le rendez-vous d'histoire proposé par l'Écomusée des Forges et Radio Balise, c'est un nouveau numéro chaque semaine et sur radiobalise.com pour une réécoute à volonté. À bientôt.